Libre-échange.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswat pour Libre-échange. Notre invité aujourd'hui est celui qui défend le secteur textile au quotidien 24 heures sur 24 pour appuyer l'ensemble des entreprises de son secteur. Il s'agit de Mohamed Tazi, qui est directeur général d'Amit. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
C'est avec plaisir.
On va parler de votre actualité, évidemment, puisque le textile est un secteur qui emploie beaucoup de monde, même si de temps en temps, on sait qu'il y a quelques usines qui font des cures d'amaigrissement, mais ça fait partie de la réalité de notre économie. Et pour m'accompagner, représenter La Vie Éco, c'est Wiem Malchos qui a fait le déplacement. Ravi de vous retrouver dans nos studios, ma chère Wiem.
Merci.
On va commencer par un son signé, Selma Rbej, qui nous présente notre invité, mais pose la problématique d'actualité.
Mohamed Tazi, vous êtes directeur général de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Nous vous recevons aujourd'hui pour faire le tour de l'actualité de votre secteur, avant de revenir sur l'état d'avancement du plan d'accélération industrielle et les défis que l'industrie textile devra relever en 2018. Le Royaume a décidé de suspendre l'accès préférentiel au marché marocain de certains produits turcs de textile et habillement. Il s'agit de mesures d'ajustement transitoires qui seront appliquées pendant une année. Pensez-vous que cette durée soit suffisante pour que l'écosystème de l'industrie textile nationale retrouve un nouveau souffle? Quel sera selon vous l'impact de cette décision en termes de création d'emplois et quelles actions comptez-vous entreprendre pour permettre aux textiles marocains de se réapproprier le marché national? Et pour finir, la Turquie était le seul pays à représenter une menace pour notre industrie textile.
Merci Selma Rbej, on va peut-être évoquer avec vous l'ensemble de ces sujets. Et pour commencer, avant de revenir à la relation entre le Maroc et la Turquie, j'ai envie de dire la relation entre les textiliens marocains et la Turquie, ses stratégies, le pays, on va voir ce que vous avez fait et on va aussi se poser la question, comme l'a fait si habilement Selma Rbej, est-ce qu'une année de protection sous cette forme est suffisante? Alors là, je dis protection, je ne sais pas si le mot vous va, mais on va revenir à ce sujet si vous voulez, Selma Rbej. Mais juste pour commencer d'abord, nous sommes en début 2018, comment le secteur s'est comporté chez vous en 2017?
Écoutez, l'année... En fait, nous avons un secteur qui va à deux vitesses. On enregistre une grande performance à l'export, puisque sur les dernières années, on plafonnait entre 29 et 30 milliards de dirhams. L'année dernière, nous avons fait un bond à 34 milliards d'euros. Et les chiffres viennent tomber aujourd'hui. Donc nous avons franchi pour la première fois la barre de 36 milliards de dirhams à l'export.
Donc c'est une grande nouvelle.
Une très bonne performance à l'export. Malheureusement, donc il y a un mais sur le marché local. Donc
sur le marché national, pas, domestique au Maroc,
on ne retrouve pas la même dynamique. Pire, donc il y a, vous avez parlé de cure d'amaigrissement.
Oui.
Donc les entreprises ont énormément pâti de la concurrence des importations déloyales, et on va bien en parler.
Alors, un chiffre, parce qu'on nous dit qu'on a dépassé les 36 milliards de chiffre d'affaires à l'export pour l'industrie textile. Sur le marché national, quel est le chiffre qu'on peut retenir pour 2017?
Écoutez, en 2010,
oui.
Les entreprises transparentes, que nous représentons,
oui.
Mais nous représentons et nous considérons comme étant le défenseur également des entreprises non transparentes, puisque nous travaillons dans un écosystème textile global.
C'est la première fois que je vous entends dire ça, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit à Swat, mais c'est la première fois que je vous entends dire ça. Allez-y.
Alors, nous représentons les entreprises transparentes,
bien sûr.
Nous défendons également l'ensemble des acteurs qui opèrent dans le textile.
D'accord.
Okay. 2010, on réalisait sur un marché évalué à 42 milliards de dirhams, 15 milliards de dirhams. Cette part a baissé en 2016.
15 milliards de dirhams facturés.
Enfin,
ou global.
Global.
C'est-à-dire transparent et non
transparent. C'est la consommation textile.
Alors, 42 milliards en 2010. Les Marocains ont acheté pour 42 milliards de textiles.
Pour 15 milliards fabriqués au Maroc.
Donc 15 milliards fabriqués au Maroc.
Produits au Maroc. Qui ne sont pas des entreprises transparentes ou pas.
Tout à fait.
D'accord.
Alors, en 2016,
oui.
C'est le dernier chiffre que nous avons.
D'accord.
Cette part est passée de 15
oui.
à 9 milliards. Donc on a perdu.
2017, ça continue à baisser.
Alors, votre sentiment, l'hémorragie,
on n'a pas encore les chiffres, mais...
L'hémorragie, et encore, si on s'en tient aux perceptions des remontées d'informations que nous avons, donc la situation s'est encore dégradée.
Dégradée, d'accord.
Donc c'est ce que vous appelez le mais, c'est-à-dire qu'à l'export, nous nous portons bien. Est-ce que cela a un impact sur l'emploi pour les entreprises qui exportent?
Un énorme impact sur l'emploi.
Les chiffres.
Donc nous nous sommes basés dans l'étude que nous avons présentée au pouvoir public sur des chiffres officiels. Mm-hmm. Nous sommes partis des données du Haut Commissariat au Plan qui, à travers les enquêtes... Alors l'avantage des chiffres du Haut Commissariat au Plan, c'est qu'il intègre l'ensemble de l'appareil productif, qu'il soit transparent ou non. Et en 2010, les emplois étaient de 520 000. En 2000, à fin 2015, c'est les chiffres du HCP, on a perdu 100 000 emplois. On est passé de 520 000 à 420 000. Ça veut dire, en 5 ans,
on a perdu
20 000 emplois par an.
Oui, c'est 20% des 500 000. Quoi. Mmh. OK, ce qui est énorme.
Et face à cette situation, due notamment aux importations illégales et...
Ou déloyales.
Ou déloyales, illégales. Plutôt.
Alors, illégales, c'est la contrebande.
Dans le terme... Moi, je trouve très approprié le terme d'importation déloyale, parce que même certaines importations en contrebande, notamment, elles payent un dû qui n'est pas le droit
qui
commun.
Qui est sous-facturé, oui.
Voilà, qui n'est pas commun. Mais j'aime bien le terme déloyal parce qu'il exerce effectivement une concurrence déloyale par rapport aux acteurs.
Vous avez surtout épinglé un pays d'origine, qui est la Turquie. Non.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas dans une bataille textile marocain contre textile turc.
Oui. Hein.
Nous, ce qui nous importe le plus, c'est de freiner cette hémorragie. Mmh. Et ce qui a été donné comme ce que nous considérons un peu dans la mesure, ce n'est pas une fin en soi. On va en parler.
Oui.
Mais en fait, c'est un signal très fort qu'ont voulu donner les pouvoirs publics aux acteurs du secteur pour qu'ils puissent reprendre confiance. Parce que un des
éléments... en quoi consiste cette mesure, Simon Tézi, pour que les auditeurs comprennent de quoi on parle?
Alors, il faut distinguer, ce n'est pas des mesures de défense commerciale. Quand on parle de mesures de défense commerciale, il y a les mesures de sauvegarde, les mesures anti-dumping, les mesures anti-subvention. Ce n'est pas de ça dont on parle. Aujourd'hui, on a activé une clause qui existe au niveau de l'accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie. Ce n'est pas une remise en question de l'accord de libre-échange.
Alors, dites-nous ce que c'est. On a compris ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'article 17 de l'accord dit que, moyennant l'observation d'un certain nombre de conditions, chacun des deux pays peut activer des mesures provisoires d'ajustement. C'est une mesure d'ajustement provisoire.
C'est une première de la part de l'État marocain.
C'est inédit, ça n'a jamais été activé.
Alors, quels ont été les arguments qui ont permis à ce que vous ayez gain de cause auprès des pouvoirs
publics? Les arguments sont énumérés dans cet article 17. Et elles sont au nombre de 4. Premièrement, il faudrait que les produits concernés ne représentent pas plus de 15% de ce qui est commercé entre les deux pays.
D'accord.
Donc, pour le cas d'espèces, ça représente moins de 8%. Mm-hmm. Hein. Deuxième élément, c'est qu'il y ait une explosion des importations. C'est le cas, puisque les importations, la part des importations turques dans les importations globales sur les trois dernières années, 2014, 2015, 2016, sont passées de 16 à 40% du total de ce qui est importé pour les produits concernés.
Mm-hmm. Hein.
Il y a eu une explosion des importations. En l'espace de 3 ans, les importations ont été multipliées par 3.
Donc ça, c'est le deuxième argument. Troisième?
Le troisième argument, c'est qu'on est en présence d'un secteur qui se restructure. C'est le cas, puisqu'il a fait l'objet de
stratégie de la part de l'État, absolument.
Et surtout, l'élément le plus important, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la perte, le lien entre l'explosion des importations et la perte des emplois. Oui. Donc, tous ces éléments-là ont été...
Quels sont les produits qui sont nommés dans le cadre de cette situation? De quoi parlons-nous? S'agit-il de pantalons, de costumes, de robes, de peignoirs, de serviettes? Quels sont les produits concrètement?
Alors, clairement, nous avons ciblé les produits finis.
Oui.
Hein, les produits finis
d'habillement. Du prêt-à-porter, on peut les appeler comme ça.
Les produits finis d'habillement.
Oui.
Mais également des produits finis de maison.
Oui.
Les couvertures, les tapis, les tissus d'ameublement identifiables, tous les tissus d'ameublement, puisqu'on n'arrivait pas à les identifier au niveau du code de nomenclature, on a dû sacrifier quelques-uns.
Oui.
Donc voilà. Produits.
On aimerait aussi savoir de combien seront fixés ces droits de douane.
Alors, il y a 4 barèmes. Mm-hmm. Ça va de 2,5 jusqu'à 25 pour le plus fort.
Mm-hmm. Okay. D'accord. Mm-hmm.
Alors, l'article 17 dit que le droit qui doit être appliqué pour les importations turques, les importations turques doivent continuer de bénéficier d'une certaine préférence. C'est la raison pour laquelle on a mis un droit de 90% par rapport au droit commun.
Et est-ce qu'une année est suffisante?
Alors, assurément non. Une année n'est absolument pas suffisante.
Les accords de libre-échange permettent d'aller au-delà d'une année?
Non.
Donc c'est maximum une année.
Alors, on avait une fenêtre de tir de pratiquement... Parce que cette mesure ne pouvait être activée que 3 années après le dernier démantèlement tarifaire qui allait prendre fin le 31 décembre 2017.
D'accord.
Donc on avait un espace temporel extrêmement réduit, mais qui dit que la mesure ne pouvait pas excéder plus d'une année.
Donc vous avez une année... pour pouvoir chercher plus de compétitivité, in fine, parce que les détracteurs du secteur vont dire bah, « c'est le problème du secteur qui n'est pas compétitif ».
Alors clairement, la mesure n'était pas ce qui était recherché, ce n'est pas une fin en soi. Mmh. Ce qu'on voulait, c'est tester, faire prendre conscience au pouvoir public de l'importance que revêt le marché local pour l'industrie. On voulait un signal.
Aujourd'hui, on estime le marché toujours à plus de 40 milliards de dirhams.
Le marché est...
National
il est en progrès, en croissance de 3-5% par an.
Oui, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un potentiel pour l'industrie nationale? Alors, perdre, en passant de 15 milliards à 9 milliards en 2015-2016, on avait raconté tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une capacité pour reprendre des parts de marché?
Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle, en jargon scientifique, en physique, les vases communicants. Oui. Ce que l'on perd, ce que l'on gagne, après la mise en place de cette mesure, on va probablement assister à un détournement vers la contrebande, vers l'informel, etc.
Oui.
Clairement, Ce qui importe, et je le répète encore une fois, c'est que l'État, ayant pris connaissance du grave dommage occasionné pour l'industrie textile, que constituent les importations déloyales dans toutes leurs formes, a trouvé le moyen pour activer un levier pour d'abord freiner des importations qui font mal, les importations turques.
Ouais.
Qui sont, alors ça c'est un troisième argument, lorsque nous avons vu le prix des importations turques, prix au kilo moyen, il est inférieur de 25 à 30% le prix des autres origines.
Oui. C'est un petit, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'AMIT, l'association marocaine de l'industrie textile et de l'habillement, que vous êtes notre invité dans Libre-Échange sur Assouat. Et qu'évidemment, nous sommes en train de parler de cette situation qui est une première inédite de relation avec la Turquie où l'industrie marocaine se fait protéger face à la puissance de frappe de la Turquie. Oui, M.
On pourrait aussi parler des perspectives de 2018, peut-être que...
Oui, on va parler de 2018, mais juste avant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez identifié clairement avec l'État marocain les appuis que les Turcs, l'État turc, donne aux entreprises turques pour pouvoir prendre des parts de marché chez nous. Est-ce qu'avec les pouvoirs publics, ils ont une écoute par rapport à ça ?
Vous savez, si c'était aussi simple de trouver, ils sont tellement pernicieux, ils cachent bien leur jeu.
Oui.
On n'est pas arrivé à
le démontrer.
À le démontrer. Mais par contre, avec l'État, aujourd'hui, nous sommes signataires d'un pacte d'accélération industrielle, vous les textiles.
Oui.
On voit que sur le plan de l'export, il y a, les choses avancent bien.
Oui.
Le signal qu'ils viennent de donner aujourd'hui à travers la mise en place de cette mesure présage qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport à l'importance du marché local.
Est-ce que vous avez essayé de sensibiliser l'État à être aussi pernicieux que d'autres États ?
On voudrait bien.
Est-ce qu'on a les mêmes moyens ?
Oui, ou on peut utiliser les mêmes méthodes.
Je crois qu'on a, dans cette antenne, on a déjà eu à évoquer le cas d'exportateurs marocains qui ont été
arrêtés, bloqués, bien sûr, etc.
Au niveau de la Turquie,
si, oui, exact.
Bien sûr, ils utilisent de tous les moyens pour protéger. Et ce n'est pas un tabou de parler de protection lorsqu'on veut sauvegarder.
Mais on n'est pas aussi protectionniste que la Turquie ou l'Égypte.
Le textile est de tous les secteurs le plus exposé aux importations déloyales. Le textile, par contre, peut énormément apporter, et ça, c'est ce que les pouvoirs publics ont réalisé, le textile pourra être, au niveau des villes, ce qu'est l'agriculture et au monde rural. On peut, parce que il faut, mais bien sûr, il faut disposer d'un marché, il faut protéger son marché.
Oui. Bien sûr.
Pour
revenir dans le marché local, est-ce que dans la perspective de 2018, est-ce qu'on s'attend à de meilleures performances, peut-être grâce aussi au retour dans le marché local des entreprises ?
D'abord, pour faire des performances, il faudrait reprendre confiance en le marché.
Mmh.
Et cette mesure, avec d'autres, nous l'espérons, qui restent à venir, parce que le marché local a besoin de son propre écosystème. Mmh. Le marché local a besoin de se départir de l'économie de rente. Que ce soit au niveau de la production, mais également au niveau de l'importation. Il faudrait qu'on rentre avec l'économie de rente.
Merci beaucoup, Smaïl Tazi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la MIT. On suivra votre actualité, évidemment, avec intérêt. Et si vous avez des chiffres à nous communiquer, n'hésitez pas. Nous serons ravis de les partager avec nos auditrices et nos auditeurs. On va aller vers la fin de ce libre-échange cette semaine avec, comme de coutume, un flop et un top. Et on va commencer par le flop qui concerne l'abus de certains copropriétaires qu'on remarque dans nos rues, dans nos immeubles, un peu partout dans le pays. Et donc, dorénavant, l'installation des antennes paraboliques sur les façades et les balcons des bâtiments est désormais interdite par un décret ministériel sur la copropriété. Et l'entrée en vigueur depuis quelques jours de ce décret amène l'interdiction qui concerne également le fait d'étendre ses tapis, son linge sur les balcons et les fenêtres et ou le déversement de liquide issu de travaux de ménage sur la voie publique. Alors, c'est une bonne chose. Je pense que ça va amener à faire un travail de fond de rééducation de la population parce que, in fine, c'est un problème d'éducation et de comportement. Mais j'ai envie de dire que c'est un bon début. Ça mettra beaucoup de temps en espérant que le petit bakchich n'éviterait pas une restructuration de cette démarche, parce que la corruption existe encore beaucoup, malheureusement, chez nous.
Mais il faut leur donner une alternative.
L'alternative, c'est comme ça, comme c'est dans d'autres pays, on trouve des solutions. Aujourd'hui, comme on a une machine à laver, on a une machine à sécher. Donc, la technologie existe. Il y a des solutions aussi, parce qu'on a un beau soleil sur les toits des immeubles, de trouver des solutions en copropriété. Ça veut dire que c'est une copropriété plus intelligente. En tout cas, ce que j'espère aussi, c'est qu'on passe à la phase suivante et qu'on oblige les copropriétaires à mettre un peu d'argent pour ravaler les façades, rendre nos rues plus gaies. C'est un investissement, certes, c'est coûteux, certes, mais ça valorisera les biens immobiliers des propriétaires.
Sûrement.
Alors ça, c'était pour le flop. On va aller vers le top. Le top, c'est un coup de chapeau à Atlas Voyage qui a obtenu l'exclusivité au Maroc pour la vente et la commercialisation des packages de Match Hospitality, qui est un opérateur dans le secteur pour le Mondial de football en Russie. Et ce tour opérateur national prend un risque, et c'est l'esprit entrepreneurial que je salue ici à partir d'Assouad, qui offrira aux entreprises mais aussi aux particuliers plusieurs types de formules qui vont pouvoir inclure hôtel, package d'hospitalité pour assister à l'ensemble des 64 matchs de la Coupe du Monde, la FIFA 2018 en Russie dans des conditions optimales. Bravo à ce tour opérateur national et bravo à la démarche qu'il a puisqu'il a déjà mis en vente 1000 billets pour la première phase des poules. Je ne sais pas par contre si la fréquentation marocaine va, après 20 ans d'absence à la Coupe du Monde au
va
mondial,
être intéressante.
Est-ce qu'elle va avoir l'engouement? 1000, il va vendre ses 1000 parce qu'on va trouver au moins 1000 Marocains qui vont y aller. Mais est-ce que vous allez y aller, vous, Mohamed?
Je suis certain qu'il y aura énormément de patriotes
qui ont envie de soutenir l'équipe nationale.
Des émereux aussi.
Absolument. Et surtout que l'équipe, les émereux ne vont pas partir du Maroc, ils vont partir d'ailleurs. Mais,
en plus des 1000 billets, et on aura d'autres.
Voilà. Et donc, bravo en tout cas à l'équipe marocaine de créer aussi de l'engouement dans le business parce qu'on voit ça consacrer une bonne dynamique, le moral va jusqu'à toucher des entrepreneurs qui cherchent des opportunités. Merci Mohamed Tazi d'avoir accepté l'invitation dans Libre-Échange cette semaine. Ma chère Wiem, merci d'avoir fait le déplacement pour pouvoir interviewer notre invité. Je vous donne rendez-vous même heure, même endroit. Vous savez où ça se passe, c'est sur Assouat. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.